Flash Thomas Vichard.
La crise ne va pas s'arrêter avec les mesures. Réaction ce soir du syndicat Coordination Rurale après les dernières annonces gouvernementales pour en finir, je cite, avec la crise agricole. Parmi les promesses du Premier ministre, des aides pour la trésorerie ou l'accélération des chantiers de retenue d'eau. Gabriel Attal l'a dit aujourd'hui en visite à la foire au Bulot de Pirou dans la Manche. Cela convient en revanche à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, les syndicats majoritaires du secteur, qui disent rester tout de même très vigilants. Une deuxième vidéo d'otages israéliens diffusée aujourd'hui par le Hamas. On y voit cette fois deux hommes de 64 et 47 ans qui parlent visiblement sous la contrainte. Ils ont été identifiés par les forums des familles des otages. Tous deux enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël et emmenés à Gaza. En réaction, des manifestants se sont réunis à Tel Aviv en Israël ce soir, peu après la publication de la vidéo. Ils demandent aux autorités un accord pour la libération des otages. Des négociations de trêve justement dans la bande de Gaza assorti de libération d'otages se poursuivent ce week-end sous la médiation de l'Égypte et du Qatar. De gros dégâts en Ukraine aujourd'hui après une nouvelle attaque massive de missiles russes, plus de 30 selon les autorités locales. Les infrastructures énergétiques du pays ciblées, 4 centrales thermiques ont été touchées, ce qui a provoqué de nombreuses coupures d'électricité. De son côté, Kiev a ciblé 2 raffineries en Russie avec des drones. Ces dernières semaines, Moscou mène des attaques destructrices contre les centrales et le réseau électrique ukrainien, ce qui oblige les autorités à mettre en place des restrictions à la consommation et à importer du courant de l'Union européenne. En France, une centaine de personnes ont célébré cet après-midi la mémoire d'Amara Dioumassi à Paris. Cet homme de 51 ans est mort il y a près d'un an sur le chantier d'un bassin destiné à rendre la Seine baignable lors des Jeux 2024. Il avait été percuté, cet homme, par un camion qui faisait marche arrière sans bip de recul. Soutien et famille réclament reconnaissance et justice pour Amara. Une mort modeste des JO grandiose, je cite. L'Angleterre, toujours trop forte pour le 15 de France féminin. Les Red Roses s'imposent largement 42-21 dans le match décisif des Six Nations face aux Bleus, invaincus jusque-là. Les Anglaises remportent leur 6e grand chelem de rang. Un match disputé au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, théâtre du record de spectateurs pour un match de rugby féminin avec plus de 28 000 personnes dans les travées. Dans le championnat de France masculin de rugby, le top 14, le leader est malmené. Le stade français réduit à 14 est mené sur la pelouse de Clermont. Plus tôt dans l'après-midi, Toulouse, deuxième, s'est imposé face au Racing, 32-12. Bordeaux-Bègles monte de son côté sur la troisième marche du podium grâce à sa victoire à Bayonne, 34-15. Et puis, en football, le PSG aussi est en difficulté. Ce soir, les Parisiens sont menés à la mi-temps, 2-1 par le Havre, mi-temps de cette 31e journée de Ligue 1. Ça se passe au Parc des Princes et l'équipe de Luis Enrique peut être sacrée championne de France si jamais elle ne perd pas face aux Normands.
1804, l'exécution du duc d'Enghien.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
En mars 1804, Bonaparte faisait enlever et fusiller ce prince de sang, et deux mois plus tard, il proclamait l'Empire.
Nous sommes là pour exécuter la sentence.
Mais je voudrais voir le général Bonaparte et lui parler.
Cela ne se peut pas. Mais...
autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
22h03 sur Inter, place à la mythologie avec Pierre Judet de la Combe, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce. Imaginons un grec ou une grecque qui, au bout d'un sentier, débouche sur une plage. La mer gronde. Les vagues se déroulent, d'abord en masses sombres qui montent, puis d'un coup elles éclosent et deviennent écume brillante, avant d'emporter sable, algues et galets, quand elles s'effondrent dans un bruit fracassant de cavalcade. Les rochers tonnent, semblent bouger. Il semble se faire l'écho de grandes trépidations profondes dans la terre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Les pieds de celui ou celle qui regarde s'enfoncent dans le sable. Des oiseaux crieurs jouent au ras des vagues et d'un seul coup s'échappent dans le ciel. L'air est plein d'odeurs imprécises mêlées. Il est traversé par des vents chauds ou cinglants qui frappent caresse la peau et les cheveux. La lumière se fait virtuose. Elle bouge à chaque instant, éblouissante. Puis mate, quand passe un nuage qui, pendant quelques secondes, efface le soleil. Des îles au loin apparaissent et disparaissent. Des remous, des gerbes d'eau laissent deviner que de grandes bêtes frôlent la surface, puis plongent sans laisser de traces. L'être humain qui contemple tout cela est saisi par une foule d'impressions, de sensations vives, par des grondements, des chocs. Il est secoué par les mouvements de l'eau et par les vibrations du sol que vient cogner la mer. Il est étonné par les passages soudains d'un état des choses à un autre, très différent. Il est mouillé par les embruns. Il peut être tenté de plonger dans ces eaux ou de prendre une barque pour s'y aventurer. Mais il est effrayé aussi par ses coups de boutoir contre le monde sous ses pieds et devant lui, par la chevauchée infinie de la mer heurtant la côte, par les monstres ou seulement les gros poissons qui, suppose-t-il, croisent devant lui. Après un certain temps, il tend son doigt vers tout cela et il prononce un mot, un seul.
Poséidon, Poséidaon.
Ça suffit. Le nom de ce dieu dit tout cela à la fois.
Cécilia d'Hercole, historienne.
Les Grecs se disposent autour de la mer comme les grenouilles autour d'un étang. Et c'est vrai que la plupart des cités grecques ont l'accès à la mer. On se met à mer parfois et souvent pour arriver dans une terre. Et parfois pour s'y établir. Mais la mer, c'est vraiment au cœur quand même de l'histoire grecque et de la Méditerranée plus généralement.
Poséidon n'est pas simplement le dieu de la mer. Poséidon, ce n'est pas la mer. Poséidon, Neptune pour le latin, n'est pas un nom divin que des anciens, encore un peu naïfs, religieux ou superstitieux, auraient autrefois donné à cette réalité bien connue, qu'ils avaient tous les jours sous les yeux, la mer, et qu'ils auraient désigné d'un nom de Dieu, parce qu'ils étaient encore englués dans leurs croyances. Les Grecs avaient des mots pour dire la mer, pas des noms religieux, mais des noms bien laïcs et très précis selon ce qu'ils voulaient dire. Ils disaient le grand Pélagos pour la haute mer et ses houles, Pontos pour la mer couleur de vin ou de violette, ou pleine de monstres comme passage, comme chemin à parcourir, Thalassa, la mer qui gronde, au grand tumulte, lumineuse, pour dire la mer tout simplement, ou encore Als, A-L-S, mot de la même racine que sel, salin, pour la mer comme étendue, salée, grise, très profonde, ou qu'on ne moissonne pas. Le grec était plus riche, plus précis que notre langue. Poséidon, Neptune, n'est pas un nom mythique religieux pour dire une puissance naturelle, une chose, une partie du monde bien définie, la mer, en tant qu'opposée à la terre, au ciel, aux forêts. Poséidon, c'est une expérience, ou plutôt un bouquet d'expériences. C'est un ensemble d'événements marquants, un flux complexe de sensations, d'émotions contradictoires, d'emprises inquiétantes sur les humains, de dangers et de splendeur, de grands ciels sereins et parfois de calme. Inventer ce nom de Dieu et l'utiliser tous les jours, c'est aussi et surtout un moyen de montrer que cet univers si complexe, qui bouge, qui change, qui cogne, qui inquiète, on peut le dominer, on peut se l'apprivoiser. Mettre un nom unique, toujours le même, Poséidon, sur cette variété infinie, changeante, de moments, de saveurs, d'émotions, de secousses tonitruantes, c'est se rassurer. C'est montrer qu'on peut saisir d'un coup, d'un mot, une réalité qui ne cesse de changer, souvent menaçante. Le nom unique qu'on répète indéfiniment, qui devient sacré, dans des récits, dans des cultes, des prières, permet de domestiquer ce monde multiple, étonnant, insaisissable. On le tient un peu, on l'évoque, on lui rend hommage et en même temps, on s'en protège. Et comme c'est un nom propre, le nom de quelqu'un, d'un être bien défini, inventer ce mot, c'est dire que ces puissances troublantes qu'on saisit à travers le nom, on peut leur parler, les convaincre, les supplier, leur faire changer d'avis si on sent un danger. On se pose comme interlocuteur face au Dieu. On n'est pas totalement désarmé. Et on peut se mettre à imaginer. Quand on voit courir une troupe de chevaux, on pense aux vagues de la mer. Même chose quand on voit une armée qui déferle contre ses ennemis. Le Dieu qui ébranle les eaux, qui heurte et fait gronder la terre, peut donc être aussi celui qui fait cavaler les chevaux ou des hommes armés. Poséidon, peut-être partout.
Du cimetière marin.
Paul Valéry, écrivain.
Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière. Fragment terrestre offert à la lumière. Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux. Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres. Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux.
Cette scène où un être humain contemple la mer et prononce le nom Poséidon, je ne l'ai pas inventée. Elle reprend une page écrite par un savant très étonnant qui a vécu à Naples entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il s'appelait Giambattista Vico, un philosophe qui s'est intéressé au mythe. C'est lui qui, le premier, a vu que les dieux, leurs noms, leurs histoires, leurs cultes, n'étaient pas des naïvetés, des images grossières, déficientes et déformées de la réalité, qu'une pensée plus rationnelle, plus moderne, allait balayer définitivement. Giambattista Vico est l'un des tout premiers à avoir vu que les fables des anciens ne sont pas des inventions tordues, sorties d'esprits encore peu éclairés, mais qu'elles expriment et construisent un rapport profond avec le monde environnant. Les noms des dieux, leurs mythes, indiquent une manière de se rapporter à la complexité du monde sans la simplifier. C'est un moyen, face à ce monde omniprésent, envahissant et souvent angoissant, car plus puissant que nous, d'affirmer une prise de distance, une liberté. Pour ceux qui ont pu le voir directement en vrai, c'est-à-dire quasiment personne, à part ses collègues divins de l'Olympe, les muses et les habitants de la mer, Poséidon était un dieu magnifique, puissant. Il avait une chevelure longue, épaisse, couleur bleu sombre. Les Grecs disaient « cyané », couleur de cyan, « kuano kaites ». Poséidon était armé d'une arme redoutable, un trident, avec lequel il pouvait transpercer ses ennemis, divins ou humains, ou frapper la mer pour l'agiter, ou pour couler les navires qui lui déplaisaient, ou tout simplement pour chasser des poissons. Dieu, intimement lié à la mer, au déferlement et à la cavalcade des vagues, il était aussi un dieu des chevaux quand il courait sur les eaux avec son char grandiose. Dieu des secousses, des mouvements et des vacarmes inattendus venus des profondeurs, il agissait aussi sur la terre qu'il frappait de son trident. Ses coups faisaient jusqu'à ses tréfonds vibrer la terre et provoquaient de grands séismes. La terre, d'habitude si stable, se mettait à bouger comme la mer. Le pouvoir de Poséidon était immense, sur mer comme sur terre. Un court poème, que les anciens ont longtemps attribué à Homère, rassemble en une prière les domaines où ce dieu est souverain.
Je commence mon chant sur Poséidon, le grand dieu qui bouge la terre et la mer aux sillons éphémères. Le marin qui possède l'hélicon et la vaste Aegaïe. Double, ô toi qui secoues la terre, et l'honneur que les dieux t'ont réservé. Ils t'ont fait dompteur des chevaux et sauveur des bateaux. Je te salue, Poséidon qui tient la terre, Dieu à la chevelure d'azur sombre, toi le bienheureux et le cœur bienveillant, protège ceux qui naviguent.
Poséidon était un pêcheur. Le trident est encore l'arme qu'on utilise en Méditerranée pour harponner les thons. C'est bien un dieu pêcheur qu'appelle au secours des femmes en détresse dans une tragédie d'Eschyle. Leur ville est encerclée par une houle d'ennemis. Elles demandent que le dieu les élimine, comme des poissons.
Et toi, seigneur des chevaux qui gouverne la mer avec l'engin fléau des poissons, Poséidon, donne la délivrance de l'effroi.
Pontos, c'est la mer et la haute mer. Il désigne la mer comme chemin, le chemin de l'aventure. C'est pourquoi Ulysse est le héros marin par excellence. Par exemple, quand Ulysse arrive sur l'île de Calypso, épuisé après un naufrage, Marcos, pour toi, qui est la femme la plus belle?
Kim Basinger.
Angela Molina.
C'est vrai, superbe aussi. Eh bien, Kim Basinger et Angela Molina réunies, c'était ça, la nave Calypso. Et elle a offert à Ulysse tout ce qu'on peut imaginer. Dis-moi, Diego, qu'est-ce qu'elle a pu offrir à Ulysse de réellement important? Quelque chose dont on a tous rêvé un jour.
La jeunesse éternelle?
Oui, tu as raison. Et l'immortalité. Et pourtant, Ulysse n'en a pas voulu. Il a décidé de reprendre la mer en s'exposant aux dangers les plus atroces. Donc lequel de ces trois mots grecs choisiriez-vous pour parler de la mer qui était tellement chère à Ulysse?
Pontos?
Oui, voilà, Pontos. Pontos, la mer, la haute mer. Il représente le chemin de l'aventure, celui de l'inconnu.
et détourne la rivière. Là-haut, là-haut, ils se moquent de nos misères. Là-haut, là-haut, si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler assez, gringo. Nos terres sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, détruire nos foyers, si beau, si beau. Tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville? Tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Pour l'eau, pour l'eau, de l'eau, de l'eau.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre-Judée de la Combe nous raconte Poséidon, le dieu aux cheveux bleus.
Parler de Poséidon ne va pas être facile. Les anciens le vénéraient, le craignaient. Ils lui ont dédié de grandes fêtes à Mycale, en Asie mineure, ou construit de grands sanctuaires, comme le temple du Cap Sounion, au sud d'Athènes, bien en vue depuis la mer. Mais ils n'ont pas cru nécessaire d'inventer pour lui de grands mythes. Ils n'ont pas composé sur lui de grands poèmes, racontant sa naissance, sa vie, son action, sa progéniture, comme ils l'ont fait pour Zeus, Athéna, Apollon, Aphrodite ou Dionysos. Poséidon est omniprésent dans la vie de tous les jours, dans la relation vécue qu'on peut avoir avec le monde. Mais il est dispersé, en changement, multiple, contrairement à son frère aîné, Zeus, le dieu souverain, dont il est comme un double, plus secret, plus instable. Zeus gouverne le monde avec autorité, depuis la clarté du ciel. Poséidon est souterrain, marin, il secoue le monde depuis les profondeurs, terre et mer. Il provoque des catastrophes, déchaîne des forces immenses, terrestres, marines, animales. Mais ce n'est pas lui qui décide du cours des choses. Raconter ce dieu, c'est mettre ensemble des morceaux de couleurs différentes et tenter d'en faire une mosaïque.
Quelle magnifique matinée! Poséidon a dû bénir notre voyage.
Les dieux parfois te bénissent le matin et te maudissent l'après-midi.
Marin, équestre, tellurique. Poséidon était un dieu multiple. On l'appelait, on le convoquait par toute une série de mots. On pouvait s'adresser à lui comme dieu des pierres, Petraios, ou dieu équestre, Hippios, ou dieu marin, Pontios. Poséidon portait ce nom de dieu des pierres, Petraios, parce que d'un coup de trident, par un séisme salvateur, il a, dit-on, libéré toute une région du nord de la Grèce, la Thessalie. Cette région était inondée par l'eau du fleuve Pénée, qui n'avait pas de chemin pour rejoindre la mer. Poséidon, en ébranlant les pierres des montagnes, a créé une passe pour que les eaux du fleuve puissent s'échapper. Un historien antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, pense que cette histoire n'est pas aberrante.
À ce que disent les Thessaliens eux-mêmes, c'est Poséidon qui créa la passe par où s'écoule le fleuve Pénée. Et ce qu'ils disent là est vraisemblable. Quiconque estime en effet que c'est Poséidon qui ébranle la terre et que les brisures qui résultent de l'ébranlement sont l'œuvre de ce dieu peut bien dire, à la vue de ce qu'il y a en ce lieu, que de cela aussi Poséidon est l'auteur.
Il y avait une toute autre raison d'appeler Poséidon le dieu de la pierre, Petraios. Cela avait directement à voir avec les chevaux, avec Poséidon équestre, Hippios. On raconte que dans cette même région de Thessalie, au nord de la Grèce, Poséidon, qui, comme tout dieu, pouvait avoir envie de dormir, s'était étendu sur une pierre et s'y était endormi. Voilà que sa semence sort de lui. Le précieux jet fut recueilli par la terre, qui ensuite engendra le tout premier cheval. Ce cheval reçut le nom de Scufios, qui veut dire « vase » pour recueillir du lait. Très souvent, on ne désignait pas Poséidon par son nom, mais comme « celui qui tient la terre », Gaiokos, ou « celui qui secoue la terre », Enosigaios, le dieu des séismes. Et tout le monde comprenait que c'était Poséidon qui frappait avec son trident. Ça peut paraître bizarre qu'un dieu qui agit surtout en milieu marin, qui a un palais sous la mer, puisse être défini aussi souvent par son lien avec la terre, qu'il enserre solidement ou qu'il ébranle comme dieu des séismes. En fait, il y a toujours quelque chose de marin chez Poséidon, dans tous ses aspects, dans toutes ses compétences. Ce dieu extrêmement puissant était un dieu du mouvement, un dieu des chocs violents qui bousculent le monde, en mer et dans les tréfonds de la terre. C'est pour cela que son arme favorite était le trident. Poséidon ébranlait tout, la mer et aussi ce qu'il y a de plus solide, les profondeurs de la terre. C'est en cela qu'il était marin. La mer, pour les Grecs, c'était d'abord un lieu hostile, secoué, un espace infini, qui pouvait avaler à tout moment des bateaux, des flottes immenses. Elle représentait pour les Grecs le danger le plus instable, impossible à maîtriser, sauf si on savait persuader le dieu Poséidon d'être vraiment le dieu qui sauve les marins.
François Lefebvre, historien.
Nous avons tous en tête les exploits extraordinaires d'Ulysse, intrépide marin. Mais il ne faut pas oublier qu'Ulysse est au moins aussi fier de savoir labourer un champ que de savoir construire un navire. Et qu'à l'époque où ces exploits sont mis en forme par le supposé Homère, il y a un autre très grand poète qui est Hésiode, qui est un paysan et qui exprime toute sa terreur de la mer. Alors pourquoi on a peur de la mer chez les Grecs? Pour deux raisons. D'abord parce que la mer, c'est par définition l'instrument du destin, un coup de fortune, comme on dit encore aujourd'hui. Et aussi parce que, Hésiode le dit, il n'y a rien de pire que de mourir en mer, car cela revient à être privé de sépulture.
Maître des vagues, qu'il pouvait déchaîner ou retenir selon qu'il voulait détruire ou sauver les bateaux, Poséidon était aussi le maître des forces qui ébranlent la terre. Il était également le maître des chevaux, ces animaux pleins de force qu'il fallait à tout prix dompter. Quand il est en majesté, quand il s'apprête à agir sur le monde avec sa force incomparable, Poséidon manifeste sa maîtrise des éléments et des chevaux. Il est souverain. Pendant la guerre de Troie, il a joué un rôle majeur en faveur des Grecs. Un jour, il les voit en difficulté. Il décide de changer le cours de la bataille en y prenant directement part. Homère nous décrit dans son Iliade son voyage fabuleux entre l'île de Méditerranée, d'où il surveillait la guerre et le champ de bataille. C'est Poséidon dans tous ses aspects. Quittant les hauteurs de l'île de Samothrace, il se manifeste avec force comme le dieu qui ébranle la terre.
Il descendit de la montagne poudreuse, rapide dans ses pas. Grandes montagnes et forêts tremblaient sous les pieds immortels de Poséidon en marche. Trois fois il tendit le pied. À la quatrième, il arriva au but, Aigai.
Aigai, la résidence dorée de Poséidon sous la mer. Les anciens la situaient en plusieurs endroits. Il semble que cette Aga ici se trouvait juste en face de l'île de Lesbos. Arrivé chez lui, Poséidon retrouve ses chevaux. les attelle à son char et se met à voler au ras des vagues. La mer laisse sortir ses monstres. Ils font fête autour de lui.
Il attela à son char deux chevaux aux pieds de bronze qui volent vite sous la chevelure d'or de leur crin. Le dieu revêtit d'or ses membres et saisit la lanière d'or bien faite. Il monta sur son char et l'emporta vers les vagues. Sous lui, les monstres de mer jouaient, sortis partout de leur cache. Ils ne méconnaissaient pas le maître. De plaisir, la mer s'ouvrait. Les chevaux s'envolaient. Si légers qu'en dessous, les cieux de bronze ne se mouillaient pas. De leur bond parfait, ils l'emportaient vers les bateaux des Achéens. Il y a une vaste grotte au fond de l'eau profonde, juste entre Ténébos et Imbros la poudreuse. Là, Poséidon, l'ébranleur du sol, arrêta les chevaux, qu'il délia du char. Près d'eux, il mit le repas d'une nourriture immortelle, et autour de leurs pieds, mit des entraves d'or, incassables, indénouables, pour que, fixés au sol, ils attendent là même le retour du maître. Ils s'en allaient vers l'armée des Achéens.
Aux humains qu'il vient aider, comment Poséidon se montrera-t-il? D'abord, pas comme un dieu tout-puissant. Il ne faut pas les impressionner, leur faire peur, mais les persuader de reprendre courage et leur donner les moyens de se battre. Poséidon ne se manifeste pas comme celui qui bouge les montagnes ou comme dieu de la mer. Il se cache derrière une apparence humaine trompeuse. Ainsi, à peine arrive-t-il dans la plaine de Troie pour encourager les Grecs, que Poséidon prend l'apparence d'un homme, Calchas, le devin de l'armée grecque, un homme très écouté. Le dieu fait à deux grands chefs grecs un discours d'encouragement militaire que tout homme normal, avisé, aurait pu tenir. Mais à côté de ces paroles humaines, Poséidon déploie ses pouvoirs de dieu. Grâce à son sceptre divin, il transmet à ses Grecs une force exceptionnelle.
Celui qui tient la terre et qui secoue la terre, d'un coup de son sceptre les emplit tous les deux d'une rage puissante, fit agiles leurs membres, les pieds et au-dessus leurs bras.
Puis Poséidon s'en va. Mais un dieu ne peut pas prendre congé comme tout le monde. Il montre en s'éloignant d'un seul coup, très vivement, qu'il est divin.
Comme s'élance pour voler un faucon aux ailes vives, monté haut depuis une grande falaise où cascadent les chèvres, il se rue dans la plaine en chasse d'un autre oiseau. Ainsi, Poséidon, l'ébranleur du sol, d'un bond les laissa.
Il laisse des traces surprenantes. Ses pieds sont plus grands. Les chefs grecs se rendent compte que ce n'est pas leur ami Calchas qui leur a parlé, mais un dieu.
L'un des dieux qui tiennent l'Olympe nous ordonne sous l'apparence du devin de combattre près des bateaux. Car ce n'est pas là Calchas, le divin déchiffreur des oiseaux. Les traces des pieds et des jambes qu'il a laissées à son départ, je les ai reconnues sans peine. Les dieux sont très reconnaissables.
Mais l'homme qui a reconnu le passage d'un dieu serait bien en peine de dire de quel dieu il s'agissait. Il a senti une présence divine, pas plus, un frôlement divin qui l'a rempli de force. Mais les dieux sont libres. Poséidon se manifeste encore dans cette même bataille, mais cette fois comme un combattant fabuleux, immense. Il entraîne les Grecs avec une immense épée flamboyante, comme la foudre qui fait fuir les ennemis.
Poséidon, qui ébranle la terre, commandait. Il avait dans sa main trapue une épée effrayante à longue pointe, pareille à la foudre. Lutter avec elle était tabou dans le combat lugubre. L'effroi retenait les hommes.
Les dieux ne connaissent pas de limites.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Take it on.
Judée de la Combe nous raconte comment Poséidon peut-il être le dieu de la mer, des secousses et de la terre.
D'où venait-il ce dieu ? Poséidon était de très bonne famille. Question pédigré, il était très noble, un dieu de premier rang. Il était un fils du couple divin Cronos et Rhea, couple royal, qui avait alors pouvoir sur le monde. C'était donc un frère de Zeus, de Héra, Déméter, Hadès, Estia. Cette génération de dieux qu'on appelle les Olympiens. Ces dieux qui habitent l'Olympe ont pris le pouvoir sur les autres dieux et sur le monde en renversant la génération précédente, celle des titans, qui se regroupaient autour du dieu Cronos. Les titans, Océan, Thémis, Japé, Hyperion, étaient issus du couple initial Terre, Gaïa, et Ciel, Uranos. La génération des dieux Olympiens, dirigée par Zeus, n'a jamais été renversée. Elle est censée régner toujours, même si elle se fait plutôt discrète en ce moment. La succession des générations divines jusqu'à la prise du pouvoir par Zeus s'est extrêmement mal passée. Déjà, le passage du premier dieu souverain Ciel, Uranos, au deuxième Cronos, s'est fait sur un mode dramatique. Uranos ne voulait pas que ses enfants vivent à l'air libre et le menace. Il les empêchait de sortir du ventre de leur mère Gaïa, la Terre. Son fils, Cronos, a trouvé le moyen de se libérer en châtrant son père. De douleur, Uranos, le père, s'est retiré haut dans le ciel, ce qui a ouvert un espace libre pour les êtres à venir. Le père, comme on peut le comprendre, a peu apprécié et n'a pas manqué de maudire ses enfants. Cronos, à son tour, ne voulait pas être supplanté par sa progéniture. Il s'est mis à avaler méthodiquement ses enfants. Le dernier à engloutir, quand tous les autres dont Poséidon croupissait dans son ventre, étaient Zeus. Mais la mère de Zeus, Rhea, en avait assez de voir disparaître ses fils et ses filles dans la panse de Cronos, son mari. Elle décida de tromper ce mari et lui donna ingurgité à la place de Zeus une pierre entourée de l'ange. Cronos était glouton et surtout empressé de faire disparaître son dernier enfant. Il ne s'est pas méfié. Zeus, qui avait échappé à l'engloutissement, fut élevé en Crète, loin de son père. Devenu adulte, il arriva à faire vomir ce père qui recracha tous ses enfants. La première chose qu'il vomit fut la pierre qui avait remplacé Zeus. On a donc pu dire que Zeus, le dernier conçu, était en fait le premier né. En tout cas, il était le premier vraiment né, à l'air libre. À la fois premier et dernier, ce qui est une position plus que prestigieuse, Zeus prit de l'ascendant sur ses frères et sœurs et engagea une guerre longue et féroce contre la génération de son père, la génération de Cronos, celle des titans. On appela cette guerre la Titanomachie. Au bout de 10 années, exactement la même durée que la guerre de Troie, Zeus, grâce à sa foudre et avec l'aide de ses frères et sœurs, la gagna. On ne sait pas bien quel rôle particulier Poséidon a joué dans cette guerre. Il a dû faire des prouesses avec son trident. On sait par contre qu'après la victoire des Olympiens, c'est lui qui a bouclé les titans dans leur prison, dans le Tartare, ce grand creux au fond de la terre, lieu moisi, immense, sombre, plein de tempêtes, qui fait horreur. Poséidon a fixé les portes qui enferment les titans dans ce lieu repoussant. Le poète Hésiode, qui racontait l'histoire des dieux dans son poème « La Théogonie », nous dit comment Poséidon a procédé.
Là, les dieux titans, sous l'obscurité brumeuse, sont cachés par la volonté de Zeus qui assemble les nuages, dans un lieu moisi, à l'extrémité de l'énorme terre. Pour eux, il n'est pas d'issue. Poséidon y a placé des portes de bronze, et un mur a été déployé des deux côtés.
Ce n'est pas étonnant. Si Poséidon est le dieu qui peut secouer la terre, qui peut déclencher des séismes, il est aussi le dieu qui peut faire le contraire, construire un mur et des portes, indestructibles, inébranlables. C'est souvent comme ça. Sur son domaine propre, un dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire une chose ou l'inverse, il est libre. Ce domaine lui appartient entièrement. Poséidon est maître de la solidité de la terre. Il peut l'ébranler, il peut aussi faire du solide, poser des bases indestructibles, comme sur mer. Il peut déclencher des tempêtes et couler des bateaux, ou au contraire, s'il le veut, les sauver. Poséidon fait partie de la génération des vainqueurs. Le principe que pose cette nouvelle génération au pouvoir, dominée par Zeus, l'aîné, est celui d'un partage juste, respecté et inamovible des fonctions attribuées à chaque dieu. Chaque dieu se voit attribuer un domaine clairement défini et ne peut chercher à empiéter sur le domaine d'un autre. Zeus est là pour surveiller le maintien des limites et punir de sa foudre tout transgresseur. La génération précédente, celle des titans, avait déjà procédé à un partage des fonctions divines, mais il était incomplet et Cronos avait tendance à se comporter en tyran. Avec Zeus et ses frères et sœurs, un régime politique différent gouverne le ciel et le monde, celui d'une répartition acceptée par tous des pouvoirs. On peut même dire un régime de la loi. En grec, le mot qui signifie loi, nomos, veut dire d'abord partage. Parfois, c'est Zeus qui procède au partage des domaines où chaque dieu va régner. Sa répartition est dite correcte et fait l'unanimité. Selon Homère, les dieux ont procédé par tirage au sort. Je dis bien les dieux, pas les déesses. La société de l'Olympe n'était pas moins machiste que les sociétés humaines. Les femmes ne sont pas invitées à ce tirage au sort. Les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, tirent donc au sort leurs domaines respectifs. La scène est racontée par Poséidon lui-même.
Nous sommes trois frères nés de Cronos, que Rhéa a mis au monde. Zeus, moi et en troisième Hadès, qui règne sur ceux d'en bas. Toutes les choses ont été partagées en trois. Chacun a eu son lot d'honneur. Moi, Poséidon, j'ai gagné d'habiter pour toujours la mer grise, quand les sorts furent tirés. Hadès a gagné les ténèbres brumeuses. Zeus, le vaste ciel, dans l'azur et les nuages. La terre, quant à elle, est commune à tous, ainsi que le grand Olympe.
Zeus a obtenu le domaine du ciel, avec ses états les plus variés, quand resplendit l'azur ou quand s'accumulent les nuages des tempêtes. Hadès règne sur le royaume sombre et glauque des enfers, le pays des morts, l'invisible. C'est d'ailleurs comme ça qu'on interprétait le nom Hadès, ce qu'on ne voit pas. Poséidon a obtenu la mer. La terre, avec sa grande montagne divine, l'Olympe, reste une partie commune. Aucun dieu ne la domine. L'Olympe, c'est là que les dieux prennent leurs décisions sur ce qu'en vont vivre les mortels, ces êtres qui s'agitent péniblement à la surface de la terre. Le tirage au sort semble bien poser un rapport d'égalité entre les trois frères. Mais Zeus est prédominant. Il est l'aîné. Il ne va jamais empiéter sur les domaines de ses deux frères. Mais c'est lui qui, dans l'Olympe, dans le lieu où les dieux se rassemblent, qui va prendre les décisions. C'est lui qui va orienter la marche du monde. Poséidon devra se plier aux décisions de son frère aîné Zeus. Mais face à ce frère souverain, il va développer, enrichir le monde à sa manière. D'abord, il faut se marier. Poséidon, dieu marin, jette son dévolu sur une déesse marine, Amphitrite, la fille d'une vieille divinité du fond des eaux, Néré, le vieillard de la mer. Amphitrite est donc l'une des 50 Néréides, comme Thétis, la déesse qui deviendra la mère d'Achille. Le problème, c'est qu'Amphitrite n'a aucune envie de céder aux avances de Poséidon. Elle s'enfuit et se réfugie très loin, au bord de l'océan, à l'ouest, chez le dieu Atlas, ce titan qui porte jour et nuit la voûte du ciel. Ce bord obscur de l'océan, du côté des ombres, du coucher du soleil, est un lieu limite, énigmatique, fortement ambigu. C'est le lieu du soir, de la disparition, mais c'est aussi un lieu de renouveau, un lieu propice à une régénérescence divine. C'est en effet là que poussent les pommes d'or des Hespérides, dans un jardin que surveille le dieu Atlas. Ces fruits merveilleux qui nourrissent et renforcent l'immortalité des dieux. Ce lieu extrême sera bénéfique pour Poséidon. Poséidon, selon une légende, comprend qu'il ne s'en sortira pas tout seul pour séduire Amphitrite. Il fait appel à un animal marin, un dauphin, connu pour sa douceur, pour son amour de la musique. On l'appelle le chanteur des mers. Et il l'envoie plaider sa cause auprès d'Amphitrite. Les dauphins, on le sait, sont poètes. On raconte qu'un jour, un dauphin a sauvé le chanteur très célèbre, Arion. Ce poète venait de finir une tournée plus que fructueuse en Sicile et en Italie. Il voulait retourner en Grèce. Des marins indélicats qu'il avait pris à leur bord voulurent le mettre à mort en le soulageant de toute sa recette. Le chanteur, Arion, demanda la permission de chanter avant de mourir. Il chanta avec sa lyre, finit son chant et sauta dans la mer. Un dauphin charmé le recueillit sur son dos et le transporta chez lui. On ne sait pas ce que le dauphin de Poséidon a dit ou chanté à Amphitrite, la belle Néréide. Mais toujours est-il qu'il l'a convaincue. Amphitrite accepta de devenir l'épouse de Poséidon. Pour remercier le dauphin, Poséidon en fit une constellation dans le ciel.
Pierre Judée de la Combe nous parle de Poséidon, dieu souvent vaincu, mais très puissant et indispensable.
Amphitrite et Poséidon eurent un enfant, un hybride, à avec en haut une tête barbue et un torse d'homme, et le reste en serpent marin. Cet enfant s'appelait Triton. Parfois, on nous le présente comme un dieu terrifiant. C'est ce qu'on lit dans le poème d'Hésiode, La naissance des dieux.
D'Amphitrite et de celui au grand vacarme qui secoue la terre, Triton est né. Grand, large dans sa force. Des fondations de la mer, il est le maître. Auprès de sa mère chérie et de son père, le Seigneur, il habite une maison d'or, dieu terrifiant.
Il y a peu d'histoires sur ce terrible Triton. Parfois, Triton peut être apaisant. En fait, il obéit aux ordres de son père, Poséidon, dont il est le messager. Il propage les volontés de Poséidon en soufflant dans son coquillage harmonieux une conque qui envoie au loin, vers le levant ou vers le couchant, les ordres du dieu son père. Ainsi, à la demande de Poséidon, il aurait calmé les eaux du déluge en leur annonçant qu'elles devaient se retirer. Zeus, en effet, en avait eu assez de l'humanité turbulente et il l'a noyée en mobilisant la pluie, les fleuves et les mers. Tous les humains, à part un couple, ont disparu sous des masses d'eau et de tempêtes. Obéissant à la conque de Triton, les eaux ont repris leur cours normal. La mer a retrouvé ses rivages. Comme tout grand dieu, Poséidon a multiplié les amours. Mais il y en a qui étonnent vraiment. Il s'est livré à des conquêtes que n'aurait jamais entreprises son frère aîné Zeus. Poséidon pouvait aimer, si le mot est juste, des créatures étranges d'un autre monde. Les anciens eux-mêmes avaient du mal à comprendre. C'est souvent lié à des histoires de cheval. Ainsi, on dit qu'il s'est uni à une divinité qui passe d'habitude pour horrible, infréquentable, une Érinie, divinité sanglante de la colère, de la vengeance, de la malédiction. De cette union serait né le cheval Arion, cheval au crin d'azur sombre, comme les cheveux de son père. C'était le plus rapide des chevaux. Parfois, on dit que ce n'est pas si simple. Poséidon n'aurait pas couché avec une Érinie, mais il aurait pourchassé sa sœur, la belle déesse olympienne Déméter, déesse du blé, des moissons. Déméter se serait transformée en pouliche pour lui échapper, mais il serait devenu étalon. Un poney Arion serait né. On dit que la mère du poulain était une Érinie parce que cette mère Déméter était en colère contre la brutalité de son amant de frère. Parfois, c'est encore plus compliqué. Il existait en Arcadie une tradition parlant d'une Déméter Érinie. Poséidon eut au moins une autre relation sexuelle bizarre, avec un être dont on ne voit pas bien comment il a pu séduire. Cet être était Méduse, l'une des trois gorgones. Elle était terrifiante, son regard transformé en statue de pierre, quiconque le croisait. Elle résidait à l'extrémité du monde, au bord de l'océan, avec ses deux sœurs. Mais des trois, elle était la seule mortelle. Elle en mourra. Le dieu aux cheveux bleus, Poséidon, a vu Méduse. Il a été séduit. Elles s'étendirent ensemble dans une belle prairie, dit le poète Hésiode.
Les gorgones habitent au-delà de l'océan glorieux, à l'extrémité vers la nuit où sont les Hespérides à la voix aiguë. Sténo, Euryalée et Méduse, qui a subi des choses tristes. Méduse était mortelle, et ses deux sœurs, immortelles et sans vieillesse. Près de Méduse coucha le dieu aux cheveux bleus de Cyan, sur une douce prairie et les fleurs du printemps.
Cette union a paru tellement incongrue à certains auteurs anciens qu'ils ont imaginé que Méduse était d'abord très belle. Poséidon l'aurait convoitée et aurait abusé d'elle dans un temple d'Athéna.
Demain, nous aurons franchi ces montagnes.
Et ensuite, Méduse.
Elle était prêtresse d'Aphrodite.
Oui. Et aussi une fort jolie femme, d'après ce qu'on dit. Mais elle a été séduite par Poséidon. Il faisait l'amour dans le temple d'Aphrodite. Et la déesse fut si jalouse qu'elle punit Méduse. Elle la métamorphosa en lui donnant une apparence si horrible qu'un seul de ses regards changerait n'importe quel être vivant en pierre.
Quoi qu'il en soit, et on ne saura jamais, l'union avec Poséidon a été féconde, mais sur un mode monstrueux qui va bien avec cette histoire. Méduse ne mit pas au monde toute seule les enfants qu'elle a conçus de Poséidon. Il a fallu que Persée, un jeune homme entreprenant et surtout désireux d'être qualifié aux yeux de tous comme grand et brave héros, vienne tuer la pauvre Méduse pour que l'accouchement ait lieu. Persée avait bien pris soin d'éviter le regard de la Gorgone, il lui trancha le cou. De la blessure jaillirent deux créatures, enfants de Poséidon. Un cheval bondissant, avec des ailes, qui reçut le nom de Pégase, Pégasos, car il était né auprès des flots, en grec Pégai, de l'océan. Ce cheval, oiseau, s'envola, dit Hésiode,
laissant la terre mère des brebis.
L'autre enfant s'appelait Chrysaor, c'est-à-dire épée d'or, un nom de guerrier. Il n'a pas fait grand-chose, ce Chrysaor, mais il engendra un fils, le géant Gérion, qui avait trois corps et qui gardait des troupeaux de bœufs sur une île de l'océan. Héraclès le tua après un combat héroïque féroce et lui prit ses bœufs. La Gorgone avait donc engendré deux fils prodigieux. L'un, un cheval oiseau Pégase, qui allait faire des merveilles par les airs. L'autre enfant de Méduse allait donner naissance à un grand guerrier terrestre et très riche par ses troupeaux. Mais ce guerrier, Gérion, petit-fils de Méduse et de Poséidon, fut vaincu par plus fort que lui, Héraclès, un mortel fils de Zeus. Poséidon ne s'est pas contenté d'être le père de Pégase, le cheval oiseau. Il a aussi été le père de son cavalier, le grand héros Bellérophon, qui avec Pégase accomplira des exploits extraordinaires. Vaincre la chimère, cet être terrifiant et improbable, cracheur de feu, à la fois jeune chèvre, lion et serpent. Puis vaincre les Amazones et un peuple très belliqueux, les Solymes. Poséidon a donc été capable de mettre au monde, grâce à un être hors norme, monstrueux, la Gorgone, des créatures démesurément puissantes et glorieuses, comme Pégase, puis Bellérophon.
Quand la pleine lune brille sur les eaux, on dit que Pégase, le dernier des chevaux ailés, vient s'y désaltérer. Écoute. Regarde là. Là-bas. Pégase.
Ce Bellérophon, fils de Poséidon, n'a pas été capable de dresser son demi-frère, le cheval oiseau. Rétif à toute contrainte, Pégase s'échappait toujours. Tout seul, Bellérophon n'arrivait pas à le maîtriser.
Calme, calme.
Si finalement il y est arrivé, c'est grâce à Athéna qui lui a donné une bride. Athéna, l'ouvrière, la technicienne, a fourni le moyen d'utiliser la force prodigieuse du cheval engendré par Poséidon. Le dieu marin, dieu du mouvement, des ruades, a engendré des forces. Mais les faire travailler ensemble, cela exige de la discipline, de la technique. Cela n'est pas son fort. Une fille de Zeus a dû intervenir. Face à Athéna, Poséidon a eu une autre occasion de montrer ses limites, encore pour une histoire de cheval. Les deux divinités, Athéna et Poséidon, étaient en rivalité tendue pour savoir qui aurait le pouvoir sur la ville d'Athènes. Quelle divinité serait chargée de protéger, de représenter la ville ? Dans l'une des versions de ce conflit, Poséidon, pour faire un cadeau aux Athéniens et gagner leur dévotion, frappe le sol de l'acropole de son trident et en fait surgir un cheval. Athéna, dans un geste similaire, frappe le sol de sa lance et en fait sortir un olivier. Les Athéniens, ou les dieux, cela dépend des légendes, choisirent l'olivier et donc Athéna. Son cadeau assurait la prospérité à la ville. Il lui assurait sa ressource de base avec l'huile qu'il produit à flot chaque automne. L'olivier est un arbre merveilleux, généreux, qui ne perd jamais son clair feuillage. Il connaît toujours la lumière, comme le rappelle l'ethnobotaniste Pierre Liotagui. On le multiplie non pas en cachant des graines dans la terre sombre, mais par bouturage, en plantant des branches prises sur un arbre verdoyant. L'olivier traverse ainsi les générations. Il est symbole de durée, de solidité. Le cheval, qui promettait des victoires guerrières, de la force, ne pouvait venir qu'en second. Selon une autre version du conflit, beaucoup plus connue, Poséidon ne fait pas surgir du sol de l'acropole un cheval. Il fait jaillir une source d'eau salée. Il implante une mer au cœur d'Athènes, en son lieu le plus important. Cela veut dire qu'Athènes aura la maîtrise des mers, se développera par l'aventure, par le risque pris avec ses bateaux. C'est bien ce qui va se passer. La puissance d'Athènes sera maritime. Mais le jugement des Athéniens ou des dieux fut le même. Ils votèrent pour l'olivier, pour Athéna. L'aventure marine est seconde, une fois que la ville s'est assurée sa solidité terrestre et vitale. On dit que de colère, Poséidon inonda la région d'Athènes pour un temps. Poséidon dut ensuite se résigner. Poséidon est puissant, mais souvent il n'est pas vainqueur. Il déploie des énergies énormes qui, c'est le cas de le dire, déplacent des montagnes, font naître des animaux prodigieux, secouent les mers et les fleuves. Mais au-dessus de lui, il y a le pouvoir politique, régulateur, exercé par Zeus, le frère aîné, ou par sa représentante Athéna, qui a su mettre une bride au cheval sauvage Pégase, qui a su donner leur sécurité aux Athéniens. Poséidon est le dieu d'événements immenses qui font l'histoire. Il est le dieu qui, des tréfonds de la terre, du fond de la mer, fait surgir des forces inconnues qui changent le monde. Mais il n'a pas le pouvoir. Contrairement à son frère Zeus, il n'est pas politique. Il ne décide pas. La semaine prochaine, nous verrons comment, dieu de la submersion, dieu des grands bouleversements, il a ébranlé le monde comme dieu de l'Atlantide.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Andrea Lechêne et Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Delphine Baudet et le mixage par Lucas De Rode. Bonne journée sur France Inter.
Merci Pierre Judet de Lacombe. Rendez-vous samedi prochain avec des déluges comme s'il en pleuvait. Le déluge est le récit mythique d'une ancienne inondation catastrophique provoquée par une divinité décidant d'une destruction de l'humanité. Certains hommes échappant à ce châtiment divin. Juste après le journal, rendez-vous avec X de Patrick Penaud, aujourd'hui Maurice Dejean, ambassadeur à Moscou dans les années 60. Il est victime d'un piège à miel monté par le KGB. De jeunes soviétiques pratiquent l'espionnage par séduction, une tactique toujours d'actualité.
Du 26 avril au 8 septembre, venez découvrir l'exposition « Olympisme, une histoire du monde ». Une traversée historique et sportive, des combats et exploits qui ont façonné les Jeux et notre époque. Revivez 130 ans d'Olympiades au rythme de portraits d'athlètes, d'images mémorables et d'objets exceptionnels. « Olympisme » au Palais de la Porte Dorée à Paris, en partenariat avec Radio France.
France Inter, la première offre de podcast pour les enfants. Un réservoir d'imaginaire sans écran.
France Inter.
Pour les plus jeunes, les histoires au lit.
Et on vit apparaître toute une bande de joyeux drilles qui sautaient et dansaient au milieu de la rue. On aurait dit toute une bande de lutins malins.
La 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 la.
Les aventures du monde animal avec Bestiole.
Et hop, un petit pipi ici et un autre là.
Le renard avance par petites foulées et s'arrête à peu près tous les 2 mètres pour uriner.
Ah, là, près du chêne, il a fait un petit caca.
Pour les plus grands, les odyssées de leur grand Besançon.
L'avion roule sur la piste, il tire sur le manche et puis... Yahoo ! Il décolle !
Yahoo !
Dans les airs, Henri fait corps avec son avion. Il sent un carlingue vibrer dans ses bras.
Et désormais, un podcast pour accompagner l'apprentissage du langage des tout-petits, c'est Toudou.
Tu sais, Toudou, mon doudou, fait tout tomber sur son passage. Il est comme ça. Il fait un peu n'importe quoi, mais je l'aime pour